Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, une émission de débat et d'analyse sans langue de bois et sans langue de buis surtout. Je reçois aujourd'hui dans le studio de l'homme nouveau, le père Michel Viau. Bonjour mon père, merci beaucoup de votre présence. L'abbé Claude Barthes.
Bonjour.
Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Marc Gianfucci.
Cher ami.
Merci également de votre présence. Vous êtes le seul à m'appeler cher ami à chaque fois, j'en suis très touché, vous savez. Et notre ami Jean-Pierre Molandre. Simple bonjour, absolument discret. Alors, le thème de cette émission, c'est un événement qui s'est passé le 18 avril dernier. Une cinquantaine de prêtres anglicans ont célébré un service liturgique au maître-autel de la basilique Saint-Jean du Latran à Rome. L'événement a été d'ailleurs très largement commenté sur les réseaux sociaux et dans une partie de la presse. L'archiprêtre de Saint-Jean de Latran a ensuite présenté ses excuses pour l'autorisation qui a été donnée pour cette célébration. Y a-t-il scandale? C'est ce que vous nous direz, ou pas d'ailleurs, justement, a été encore plus fort dans la mesure où le célébrant principal est donc un évêque anglican, qui plus est divorcé et divorcé, remarié.
Et franc-maçon.
Un événement un peu particulier. Alors, est-ce que c'est finalement un coup de tempête dans un militier, parce que ce genre de cérémonies peuvent se dérouler l'abbé Gianfucci est en train de bouillir, là. Peuvent se dérouler de manière assez fréquente, ou est-ce que c'est un vrai scandale? Ben, je vous donne la parole, justement, monsieur l'abbé.
Eh bien, c'est un scandale dans le sens où l'anglicanisme s'est écarté de la transmission de la succession apostolique, s'est écarté aussi de la foi de multiples façons, mais particulièrement par rapport au sens du sacrifice de la messe. Et c'est la raison pour laquelle Léon XIII a tranché un débat théologique qui était la validité des ordinations chez les anglicans. Et donc, il n'est pas évêque. Il est évêque anglican, mais il n'a pas la succession apostolique. Et les prêtres anglicans qui étaient là sont des pieux laïcs. Ils ne sont pas prêtres. Lorsque Benoît XVI...
Donc ce n'est pas une vraie messe, alors, si je comprends bien.
Non, certains sont peut-être pieux.
Comment?
Certains sont peut-être pieux.
Oui, justement, ce sont des pieux laïcs.
Vous donnez la piété à tous.
Voilà, ce sont des pieux laïcs.
Mais ce que vous dire, certains ne sont peut-être
donc,
même pas pieux.
La simulation d'une messe dans une cathédrale et dans la cathédrale
du pape
est invraisemblable. En plus, il n'est pas évêque, ils ne sont pas prêtres, et ils font une simulation avec un rite en plus qui ne croit pas dans le fait de rendre présent le saint sacrifice du calvaire. Donc c'est désarmant de démagogie. Ce n'est pas de la charité vis-à-vis d'eux d'ailleurs, puisqu'on ne leur rappelle pas que lui n'est pas évêque, qu'eux ne sont pas prêtres et qu'ils peuvent peut-être justement en réfléchissant et en méditant rejoindre l'ordinariat anglo-catholique créé par Benoît XVI pour justement aider les prêtres anglicans qui étaient désespérés de voir la dérive de leur institution, de leur église.
On ne sait pas si des fidèles ont assisté, ont communié, on ne l'a pas dit. Ça,
et en plus, l'évêque anglican lui-même est divorcé, donc il ne respecte pas la parole du Christ.
Pour l'anglicanisme, c'est
normal.
L'anglicanisme est fondé sur le divorce.
Il y a une blessure philosophique dans l'adhésion à la franc-maçonnerie et qui atteint ensuite la théologie. Donc tout cela, si vous voulez, c'est un dommage.
Il n'a peut-être pas expliqué aux prêtres de la sacristie qu'il était franc-maçon.
Non.
En revanche.
Mais moi, pour le cœur du manque de charité, de laisser par démagogie un acte œcuménique au sens extrêmement large, c'est de ne pas les attirer vers la fidélité à la succession apostolique à l'ordination vraie et à la Sainte Messe.
Père Michel Diot, comment est-ce que vous...
Ma première pensée.
Vous regardez cet événement ?
Moi, j'avoue, j'étais très... Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est l'attitude de cet évêque anglican qui s'est mal comporté. Parce que visiblement, il s'est mal présenté aux gens de Saint-Jean-de-Latran, qui ont pu confondre, parce qu'on parle d'ang... J'ai lu plusieurs articles, on parle d'anglicano-catholique...
D'anglo-catholique.
Bon, tout ça, c'est pas... Il a pu... ce qui m'ennuie, c'est l'évêque, parce que je pense que les gens de Saint-Jean-de-Latran et les autorités romaines ont été dupés, ont été trompés. Et ça, personnellement, de la part de cet évêque, je trouve que c'est tout à fait normal. La question de divorcer, remarier, ils ont notre discipline. Le sacrement, c'est pas un mariage, le mariage n'est pas un sacrement, et bien qu'il implique l'indissolubilité, mais enfin, ils ont notre discipline. On ne remarie pas comme ça quelqu'un qui a été divorcé. Il y a une commission spéciale, comme il y a dans l'Église luthérienne. Moi, j'ai présidé pendant plus de 20 ans, alors je connais... Bon. Mais, si vous voulez, déjà, l'erreur, c'est d'avoir voulu célébrer la messe...
Il y a une raison.
La messe à Saint-Jean-de-Latran. Bon, alors, ça, franchement... bon, en plus... je peux en parler facilement, puisque vous savez que j'étais dans son cas. Puisque j'ai été évêque de Théria et franc-maçon. Et de loge qui dépendait de la grande logie d'Angleterre. Donc, choses sont... Bon. Mais jamais me serait venu à l'idée de demander de célébrer une messe, d'ailleurs aussi bien d'ailleurs luthérienne que catholique, dans un édifice catholique et surtout dans une cathédrale, compte tenu du fait qu'il y a un problème entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, y compris la Grande Logie d'Angleterre, puisque les textes pontificaux n'ont pas fait de distinguo entre... voilà. Mais, et qu'en particulier, si on prend le Code de droit canon de 1983, où effectivement il n'y a plus d'excommunication automatique, le point quand même qui reste, et c'est là que vraiment cet évêque anglican est désarmant, c'est que le cardinal Ratzinger disait que ça restait un péché grave qui éloignait de l'Eucharistie. Or, il célèbre l'Eucharistie, et en plus en utilisant une liturgie qu'il n'a pas le droit de célébrer, puisque c'est la liturgie catholique. De quel droit il fait ça? Il est dans une église où, je sais bien que les 39 articles, vous savez, c'est ce qui permet d'avoir une haute église, ce qui a donné Newman, d'ailleurs, hein, et puis une autre église qui est plus proche des réformés. Mais enfin, ce genre d'embrouille ne se fait pas. En plus, il appartient à un groupe que je connais bien, qui est le groupe de Porvaux. Il y a deux groupes protestants qui ont un but différent. Sur le continent, en France, c'était longtemps, c'était Leuenberg, la concorde de Leuenberg, et dont le but était l'union des protestants entre eux. Et pour Vaud, c'était les épiscopaliens, c'est-à-dire la Scandinavie et aussi les anglicans et les épiscopaliens, qui pensaient que l'œcuménisme, pour eux, c'était d'abord la recherche de l'unité avec Rome. Mais, ah oui, et ça, donc, c'était la priorité. Et moi, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, quand j'étais installé comme inspecteur ecclésiastique, donc ce qui est l'équivalent d'évêque, j'ai demandé la présence de l'archevêque d'Uppsale. Parce que si Léon XIII a condamné, enfin, a dénoncé la validité, il n'a jamais rien dit sur les ordinations suédoises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une continuité historique, mais évidemment canoniquement douteuse. Hein, bon, voilà. Alors,
Jean-Pierre Mougeant, voilà, voulait.
Je trouve qu'il a mal agi. Il a mal agi à la fois comme évêque. Cet évêque a mal agi comme évêque anglican. C'est un manque de courtoisie par rapport à Rome. Et vis-à-vis de la Grande Logie d'Angleterre, il a aussi mal agi parce qu'il a dissimulé, il n'a pas dit la vérité. Et par exemple, ça, c'est un cas de radiation immédiate.
Alors Jean-Pierre Mogent, vous vouliez réagir il y a un instant, puis après je donnerai la parole à Abbé Barthes.
Un petit peu complémentaire, un petit peu différent. Alors moi, je n'ai pas d'avis, je ne sonde pas le rein et les cœurs de Mgr Becker, puisque c'est de lui dont il s'agit, donc cet évêque anglican. Bon. Et puis, ça n'est pas ma confession, entre guillemets, il fait ce qui lui passe par la tête, c'est pas mon souci. Moi, ce qui me terrifie, c'est l'attitude des autorités de la cathédrale Saint-Jean de Latran. On est quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est la cathédrale du pape. C'est pas l'église à Saint-Égonec ou je sais pas quoi. C'est la cathédrale du pape. Et les personnes qui ont la responsabilité de cette cathédrale, le fait qu'un événement de ce type ait pu se produire, soit ils sont nuls, c'est qui cet évêque, d'où est-ce que vous sortez, est-ce qu'on peut avoir accès à votre célébrette, quand est-ce que vous avez été sacré, enfin je veux dire, on fait un peu son métier, soit ils sont nuls, soit ils sont complices. Et alors, en plus, parce que la vie est faite comme ça, ça peut aussi être un mélange des deux, quoi. Mais je trouve ça vraiment terrifiant, qui est une marque du désordre de l'Église telle qu'elle vit aujourd'hui. Et puis aussi, là, de la part de ce brave évêque, je ne sais pas s'il est brave évêque, on vit dans un climat de laxisme général. Donc tout est possible. Il y a plus de sanctions. Alors sauf si vous voulez célébrer la messe romaine traditionnelle, là vous avez droit à des sanctions. Mais sans ça, tout est possible. Et ce brave homme, entre guillemets, il profite de cette absence de règles, de ce laisser aller général. Et il passe entre guillemets à travers les mailles du filet. Moi, je trouve ça très grave.
Il y a encore une chose suspecte à propos. Je précise quand même que c'est un évêque anglican. Traditionnaliste qui refuse l'ordination des femmes et les femmes évêques. Il fait partie de ces évêques volants, comme on dit, qui ont été ordonnés pour justement s'occuper de gens qui risquent de quitter l'anglicanisme et qui vont le quitter, certainement après un coup comme ça. Alors, comment un homme qui défend la tradition dans sa propre église peut faire une
certaine tradition.
Vous comprenez ? J'ai une hypothèse. Auparavant,
Monsieur Abbé
Barthes, pour ce que vous dites, est-ce que complicité ou nullité ? Oui, en effet, je crois qu'il y a les deux. C'est vrai.
Donc, de la part
de Saint-Jean de Latran.
De Saint-Jean de Latran.
La sacristie de Saint-Pierre est un peu mieux organisée, mais guère mieux, hein, quand même. Quand on n'est pas traditionnaliste, on peut dire la messe comme on peut, pratiquement, sauf si on l'a dit individuellement, il faut qu'on célèbre. Bon, voilà. Sinon, pour le reste, ça se passe très facilement. Je crois que le brave entre guillemets, oui, prêtre qui a reçu la chose, a rien compris, c'est des Anglais. Puis, et à la limite, il s'est dit, c'est un Anglican, c'est encore mieux, ça se fait aujourd'hui. Enfin, il ne savait pas, je crois. Le manque de communication qui a été plaidé par l'archiprêtre est hélas possible, c'est le pire de tout. Bon, alors évidemment, tout ça dans un climat œcuménique. Et un climat œcuménique, alors pour le coup, pourquoi l'évêque anglican a-t-il choisi Saint-Jean de Latran ? Parce qu'il y a une tradition. Saint-Jean de Latran était, avant la Réforme, avant Henri VIII, et même jusqu'à Henri VIII lui-même, sous la protection des rois d'Angleterre. Donc c'est un peu un lieu anglais, si vous voulez, Saint-Jean de Latran. C'est ce qui explique qu'a eu lieu cet énorme scandale à l'époque de Saint-Paul VI, dans cette cathédrale, quand il a reçu l'archevêque de Canterbury, souvenez-vous, Ramsay, et précisément, il ne l'a pas exactement reçu. On s'est débrouillé pour que le cérémonial fasse que c'était l'archevêque de Canterbury qui recevait Paul VI. Il était là avant, il est parti après. Et Paul VI se tenait à droite, à la place de l'invité. Et dans cette cérémonie, il y a eu trois choses. Ils ont béni ensemble la foule. Vous allez me dire, c'est une bénédiction, c'est pas enfin, quand même, c'est un communique important. Hein. Bon, tous les deux. Paul VI a donné son anneau, a pris l'anneau qu'il avait reçu à Milan et l'a passé au doigt de l'archevêque de Canterbury. Alors, c'est colossal. C'est le mariage de l'évêque avec son église, l'évêque de Rome avec son église. Et il lui a donné un calice. Il a offert un calice. Alors, un calice, c'est normalement fait pour dire la messe. Ça va contre Léon XIII et contre l'apostolique Corée. Si vous voulez, le scandale a des précédents. sans parler de tous les autres gestes œcuméniques qui banalisent cette... Et d'où le fait, d'ailleurs, parce que finalement, c'est le plus grave, le fait est arrivé. On s'aperçoit que c'est une bourde, mettons. Oh, très bien, on est scandalisé, on regrette, on s'excuse. Enfin, il faut plus que des excuses. C'est un culte qui n'est pas le culte catholique, qui est sur l'autel du pape, donc une espèce de réparation quelconque. Quand ce malheureux Dominique Vénère est allé se suicider sur l'autel Notre-Dame, il y a eu une réparation. On a dit une messe de réparation. On aurait pu faire la même chose aussi, là, pour vraiment montrer qu'on était... c'était pas possible. Or, non, non.
On en est loin, là, aujourd'hui.
Il faudrait aussi se poser la question de savoir si on est scandalisé par le fait lui-même ou par le bruit que ça fait.
Par ailleurs, mais enfin bon, oui. Mais oui. Bah oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais justement, si on est... Oui, bien sûr.
Pour ajouter un détail historique important et récent, c'est dans le développement du code de 1983, du code de droit canonique de 1983, on a précisé les degrés du magistère et parmi ces degrés, il a été précisé les doctrines catholiques définitives. Et comme exemple, c'est l'invalidité des ordinations des anglicans.
Qu'est-ce qui fonde justement cette invalidité des ordinations ?
La succession apostolique et l'hérésie. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas dans la transmission d'un pouvoir sacrificiel.
Mais bien, elle a été rompue.
Le raisonnement de Léon XIII, dans l'apostolat du Louis, il est très important parce qu'il...
Il est au cœur du problème.
Il est au cœur du problème, au cœur de toutes les discussions qui peuvent être sur la validité des sacrements. Et donc, par exemple, la validité des nouveaux sacrements, si on les discute, il faut s'appliquer... Le document fondamental est celui de Léon XIII. Léon XIII explique... donc examine l'ordination, le rituel, l'ordinal, ça s'appelle anglican, et il remarque que l'ordination se fait avec une forme et une matière qui, après tout, pourrait convenir. La matière, c'est l'imposition sur la tête du diacre, sur la tête du prêtre, sur la tête de l'évêque, avec les paroles, recevez le Saint-Esprit-Saint pour l'office. Pour le ministère de l'office, de prêtre, de diacre, de prêtre, d'évêque. Grosso modo, Léon XIII dit, je résume, après tout, ça pourrait être valide. Mais il se trouve que tous, alors c'est là que Miguel Fuchsy a parfaitement raison, tous ceux qui entourent ce cœur de l'ordination, la partie qu'il appelle cérémoniale, je crois, donc tous les autres rites, montrent à l'évidence que ceux qui ont fait ce rite et ceux qui le pratiquent ne croient pas, ce qui est pareil puisque s'ils le pratiquent, c'est que bon, ne croient ni à la à la présence réelle, enfin à la consécration, ni à la rémission des péchés. Et voilà, je crois que c'est les deux points qu'il dit. Et donc ce ne sont pas des prêtres qu'on fait. Mais des ministres qui ne sont pas des prêtres, à cause de cet entourage. Hein. Ce qu'on pourrait appliquer aussi, donc on va essayer d'appliquer à des sacrements nouveaux, on peut le dire, puisque évidemment c'est une question qui agite beaucoup dans le monde traditionnel, on peut évidemment pas dire la même chose pour la nouvelle messe, en soi. Mais on peut le dire, comme disait l'abbé Mercury, dans une très bonne petite thèse que je recommande, que le rite nouveau est quand même plus faible. Et dans sa partie, justement, cérémoniale. La partie
le rite nouveau, lequel rite nouveau ?
Le rite nouveau de Paul VI, de Saint Paul VI. Il est plus
moins
faible.
Moins signifiant.
Moins signifiant. Et par conséquent, peut plus facilement être détourné. On peut plus facilement, un prêtre qui ne croit pas à la présence réelle peut utiliser le rite nouveau. On peut dire à peu près n'importe quoi pour montrer qu'il ne croit plus. Voilà. Donc il n'y a plus cette force qu'a le rite traditionnel pour
encadrer ce que dit le prêtre,
et d'ailleurs, Élisabeth II d'Angleterre, il n'y a pas eu de célébration pour le repos de son âme. C'est la théologie anglicane, rejoint sur ce plan-là le fait que la messe n'est pas propitiatoire. La messe n'est pas une source...
Il n'y a pas la messe pour les défunts, voilà.
Il n'y a pas de messe pour les défunts.
Non, il n'y a pas de messe pour les défunts.
Oui, mais ça vient du fait... Oui. On ne considère pas que c'est un sacrifice.
Comme vous le savez, puisque vos pères vous pratiquez les messes pour les défunts, au Père Lachaise, il n'y en a malheureusement plus beaucoup dans le, aujourd'hui.
Dans le monde catholique.
Oui, mais il faut dire ça aussi, c'est que le monde catholique, dans ce domaine, s'est protestantisé. Et quand... je l'ai dit même aux intéressés, à ceux qui me tenaient des discours. Vous voyez, quand quelqu'un demande une messe, on commence par savoir, essayer de savoir si la personne était très pratiquante, combien de personnes vont communier, que ceci, que cela. Mais justement, si elle n'était pas pratiquante, elle a plus besoin d'une messe qu'une autre.
Eh oui.
Bien entendu. Écoutez, tout de même. Et puis, alors, pendant la période. C'est là qu'on voit. Il y a comme une un defectus dans l'enseignement sur la messe. On nous avait interdit la messe, donc, pendant la période de confinement.
Hein. Oui.
Mais toutes les églises étaient ouvertes, quand même. Il faut quand même reconnaître ça à notre archevêque, à l'époque de l'avoir. Parce que je connais des diocèses où c'était fermé. Bon. Tandis que là, tout était ouvert, ça se passait dans l'église. Bon, un nombre réduit, mais ça se passait dans l'église. Bon, écoutez, moi, quand j'ai demandé l'autorisation de dire la messe, je me dis, c'est pas compliqué, je serai le seul à communier, et puis les gens ne bougeront pas de leur place, puisqu'ils ne doivent pas bouger. Mais au moins, il y aura la messe. Pour que la messe soit valide, il suffit que le prêtre communie. Un point, c'est tout. Et on a dit la messe. Mais vous comprenez, malheureusement... Beaucoup, je dirais 80% des prêtres en exercice actuellement, que je connais, vont vous dire, bon, une messe, une bénédiction, c'est pareil. Et puis, la messe pour les défunts, bien sûr, c'est par suffrage, mais à la limite, on pourrait s'en passer. Voilà. Et alors, ça ne va pas.
Je pense autour de ça, d'ailleurs, il y a deux remarques. La première, c'est pour un certain nombre des peu de messes qui sont célébrées, ce sont devenues des messes d'hommage, dont l'exercice
pour les défunts,
de dire, pour les défunts, c'est de dire du bien de la personne qui a été arrachée à l'affection des participants, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on revient vraiment sur cette question de fond qui est, me semble-t-il, un élément majeur de la crise que vit l'Église, c'est la crise du catéchisme.
Tout à fait.
C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ça ne leur est pas enseigné, sauf cas particulier, ces jeunes, ils deviennent des adultes et ils n'ont aucune notion de ça. Aujourd'hui, on a une, et je pense que maintenant on est rendu à deux générations pour qui ce sacrifice offert pour les défunts, c'est d'une autre planète, ça ne veut rien leur dire.
Alors si vous voulez bien, on va revenir au monde anglican quand même, puisque l'abbé Gulfetchi a évoqué la messe d'inhumation, la cérémonie d'inhumation.
Ah bah c'est une cérémonie réformée.
D'Elisabeth II, son fils va être couronné là.
Sacré.
Il va être sacré.
Charles III.
Charles III.
Il ne croit ni à Dieu ni à diable.
Probablement, mais ça, je vous laisse la parole. Mais le pape a offert, semble-t-il, des reliques.
Oui, mais il fait ça tout le temps. C'est terrible. Ça aussi, ça fait partie du climat général. Il donne des reliques à tel patriarche, à tel autre. Il a donné des reliques à je ne sais quel patriarche oriental qui fêtait son anniversaire. Il aurait pu envoyer une bouteille de champagne. Enfin, bon, c'est vrai. Pourquoi des reliques?
C'est des reliques de la Sainte Croix.
Il est un peu
c'est
plus religieux peut-être que le champagne.
Oui, non, mais c'est justement pour montrer. Enfin, bref.
Et on se moque souvent des reliques de la Sainte Croix en disant que. On pourrait en faire des forêts.
De quoi
c'est pas vrai.
Et sauf que là, non seulement c'est faux, parce que la plupart sont des échardes qui sont pris d'une véritable partie. Mais là, ce qu'il a envoyé, c'est des parties importantes et qui viennent vraiment des
ressources du Vatican.
Du sérieux.
Des reliques assez importantes. D'ailleurs, pour honorer ce cadeau dans la procession. Du couronnement, ces reliques seront portées en premier. Certes, mais il serait meilleur d'inviter le Charles III à devenir catholique.
Oui, mais attendez, écoutez, la question anglaise... Je la connais peu. Elle est
avec, l'huile qui va être utilisée, qui sera bénie par des évêques orthodoxes.
Oui, non, mais c'est pas grave, ça. En plus, c'est
du. Mais pour qu'elle soit vraiment du Saint-Crème.
Qui vient de
Terre Sainte. Parce que les évêques anglicans ne peuvent pas.
Voilà. Oui, non, mais ça montre bien, vous comprenez, la réforme anglicane, il est faux de la faire partir d'Henri VIII. Henri VIII n'a rien réformé du tout. Il s'est simplement... Il a fait un peu plus que le roi de France, beaucoup fera Joseph II. Le chef de l'Église, c'est moi, voilà. Mais pour la doctrine, il n'a strictement rien changé.
Non, il est mort avant.
Il a même... Mais il ne voulait rien changer. N'oubliez pas que c'est quand même le premier prince qui s'est opposé à Luther.
Ouais. Défenseur. Qui,
félicité par le pape.
Et, ouais. Défenseur.
Et il a eu la rose d'or.
Oui.
Et il a eu la rose d'or. Bon,
ben, avant le divorce, quand même.
Oui. Entre nous, écoutez, entre nous.
Il y a un traité sur l'Eucharistie, qu'il a patronné.
Qu'il a patronné,
Et qui lui a valu le titre de défenseur fidèle.
Défenseur de la foi. Il était très ami avec Thomas More.
Oui, mais ce sont des fautes morales. Mais il n'est pas mort hérétique.
Non, mais c'est des fautes morales.
Il est mort schismatique, mais pas hérétique.
Oui, mais des fautes morales qu'il a voulu consacrer par son Église.
Non, même pas.
Il est mort avant.
Il est mort avant.
Il s'est marié combien de fois?
Non, il essayait de justifier. Il les tuait, ou il faisait déclarer la nullité, mais il n'a pas admis le divorce au sens propre. Hein.
Il est schismatique. On aurait pu mettre ça à l'annexe d'Amaury de Laetitia.
Voilà.
Pour épouser Anne Boleyn avant qu'il lui fasse couper la tête, tout de même, il n'a pas voulu justement être bigame, et il a fait casser son mariage par une assemblée d'évêques anglicans, qui l'a déclaré nul.
Napoléon a fait le même. Il a recommencé quand même tellement de
fois.
Il était formaliste.
Il était formaliste, tout à fait. Mais vous savez, souvent, les coureurs de jupons sont des bigots très... C'est de la bigoterie, là. Mais c'est en même temps, sur le plan de la doctrine, il n'a rien changé. Bon, c'est pour ça que Marie Tudor a pu lui succéder, avec évidemment quand même des problèmes. Mais alors, voyez-vous, le pape lui donne la vraie croix. Bon. Au moment où Marie Tudor, avant que Marie Tudor ne vienne au pouvoir, il va falloir remplacer l'archevêque de Canterbury. Bon. C'est le pape Paul III qui est là. Et c'est alors lui, contrairement à Clément VII, qui aurait, entre nous, pu casser le mariage ou déclarer nul le mariage d'Henri VIII. Hein. Parce que...
Ça aurait facilité.
On a perdu l'Angleterre à cause de ça. Bon, c'était quand même pas malin. Hein. Bon. Et d'ailleurs, Paul III a dit, quand il était élu, il m'a volé 12 ans de mon pontificat. C'était la première réaction de l'oraison funèbre de Clément VII, Jules de Médicis. Bon. Paul III va nommer, alors qu'il sait très bien que Cranmer penche vers le luthéranisme, qu'il est marié secrètement, il va le nommer archevêque de Canterbury. Pourquoi? Parce qu'il sait que Henri VIII n'a rien changé à la doctrine, et il espère ne pas perdre l'Angleterre.
Oui, mais on était dans cette période floue où tout pouvait arriver. Mais
d'autant plus que vous allez avoir après... Mais c'est ça,
c'est arrivé.
C'est que Édouard VI, lui... Va faire introduire la réforme dure, pure et dure.
Et Élisabeth a réussi le coup de le faire.
Et justement, parlons-en d'Élisabeth. Élisabeth, elle n'avait pas le choix. Comme elle était reconnue comme bâtarde, de tout ça, par les catholiques, elle ne pouvait être que protestante. Alors on lui a dit, bon, alors la déclaration de foi, on va prendre donc celle de votre frère, Édouard VI, puisque vous êtes protestante. Elle dit, non, c'est trop calviniste. Et c'est là... connaît l'anglicanisme.
Dans ce génie de l'entre-deux, mais
voilà.
Qui est quand même... Oui.
Voilà, donc, ça veut dire que, à l'origine même, Rome n'a pas claqué la porte à double tour, et l'Angleterre non plus.
Mais pas plus qu'on l'a claqué à Louis XIV, pas plus qu'on l'a claqué à Napoléon. Pas à tort, d'ailleurs. Mais enfin, ça, j'en ferai faire.
Ah, ben, j'en suis pas sûr.
Pour Napoléon.
Mais n'empêche que... Non, il n'empêche que... Cette politique a permis les 39 articles avec, justement, certaines... Mais ça, les Français ont du mal à comprendre, les Anglais là-dessus, c'est quelque chose de typiquement anglais. Mais ça a permis à des hommes comme Newman d'exister et de faire de venir.
Ça, c'est longtemps après. Entre deux, il y a eu beaucoup de martyrs à cause des 32 articles, quand même.
Oui. Mais, bien entendu.
Mais il y a un moment 42, d'ailleurs.
Et alors, les Jacobites, c'est quoi ça? Il y a une
C'est avec les Stuart, les Jacobites. Mais ils n'ont pas compris que c'était fini. Bon, il fallait laisser du temps. Bon, mais si on a pu faire aussi un ordinariat anglican, et qui a permis quand même à beaucoup d'anglicans
de
devenir catholiques, c'est parce que, justement, la porte n'était pas fermée à double tour. Donc, moi, voyez-vous, je ne suis pas du tout horrifié par le fait, je suis même dans un sens heureux, parce que je pense que Charles, il a beaucoup évolué, c'est pas pour rien qu'il devient roi maintenant, ça aurait été une catastrophe s'il était devenu roi il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Je pense qu'il a beaucoup évolué, et qu'il arrive au bon moment. C'est peut-être pas, il est peut-être pas aussi pieux que sa mère, mais je sais que par respect filial et par amour filial, il fera un gros effort.
Je vous donne la parole, Jean-Pierre, et puis on continue notre discussion. Allez-y.
Alors, ce qui est certain, indépendamment de ces considérations historiques, c'est que cette cérémonie qui va avoir lieu, où vont intervenir, mis sur un même plan, des évêques, entre guillemets, anglicans, orthodoxes, catholiques, le cadeau que fait le pape à Charles III, tout ça, pour Madame Michu, Madame Michu, Monsieur Michu, ça revient à mettre toutes les religions sur le même pied. Et tout ça, c'est pareil. Voilà, chacun, en fonction de son histoire, il est ceci ou il est cela. Et au final, tout ça, c'est très bien. C'est ça que comprend le bon peuple qui s'intéresse un petit peu au sujet. Et je pense que c'est grave.
Toutes les confessions chrétiennes, c'est du
voilà.
Toutes les confessions chrétiennes.
Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, entre guillemets, à Saint-Jean-de-Latran, puisque dimanche, ce dimanche, là, 14 mai, devrait avoir lieu, à Saint-Jean-de-Latran, une autre célébration par le pape, entre guillemets, copte orthodoxe Tawadras II.
C'est beaucoup plus grave.
D'une messe, donc, normalement, en Saint-Jean-de-Latran. Vous dites que c'est beaucoup plus grave
parce qu'elle est prévue. Elle est officielle. Et là,
on ne peut pas dire qu'on a été surpris.
Dans la cathédrale du pape vient à la fois du cardinal vicaire, des Donatis et forcément de Santa Marthe. C'est pas possible. Donc c'est beaucoup plus embêtant. Parce que là, on veut poser un acte œcuménique comme tel qui ne s'est jamais produit de cette manière-là. Ça peut se produire accidentellement.
Justement. Où en sont les coptes maintenant?
On va laisser finir.
D'abord, pour l'instant, ils sont pas catholiques. Voilà. Et donc, comme non catholiques, ils vont.
Oui, pas tous. Parce qu'il y a des coptes.
Il y a des catholiques. Non, mais ceux-là ne le sont pas. Mais ils peuvent le devenir. Ils ont fait en effet quelques progrès du point de vue du monophysisme, en le laissant un petit peu de côté. Oui, d'accord. Mais enfin, ils n'ont pas encore fait. Et là, on va leur faire quelque chose. On n'a jamais fait un culte donc non catholique dans une église. Et quelle église? La cathédrale du pape, avec forcément la permission du pape. Donc là, il me semble que c'est un acte œcuménique beaucoup plus grave, pas loin du calice de Paul VI.
Mais c'est, si vous voulez, de ne pas reconnaître le magistère du successeur de Pierre. D'être séparé hiérarchiquement, il y a une conséquence à travers les siècles qui fait qu'on reconnaît le divorce. Alors avec Ecumenia, c'est pas bien, donc la deuxième union est plus humble et tout ce que vous voulez, mais on se remarie. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, attention, Jean-Paul II a été très clair dans Familiaris Consortio, même si on ne croit pas dans la sacramentalité du mariage, tout baptisé est marié sacramentellement. Qu'il soit anglican, qu'il soit luthérien, qu'il soit calviniste, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit copte orthodoxe ou moscovite, enfin voilà. Et là, en l'occurrence, une des conséquences de ne pas reconnaître la grâce particulière du magistère romain, c'est de ne pas reconnaître, par exemple, l'Immaculée Conception. Et les coptes, moi j'avais discuté avec un évêque copte, ils nous disent non, la Vierge Marie n'est pas Immaculée Conception. Et c'est blessant pour les fidèles qui voient ça.
Madame Michu.
Et on dit, ils célèbrent la messe sur le maître-autel de Saint-Jean-de-Latran.
Et l'autel du pape.
Et en fait, ils ne croient pas dans le révélé, dans sa plénitude.
Bah, et puis surtout, ils sont en,
et ils,
ils
voilà,
sont en séparation, ils sont avec séparation avec le catholicisme, l'Église.
Avec l'église. Toutes les conséquences pour oui. le salut.
Alors, ils ont certainement beaucoup de bonne volonté, on pourrait les recevoir, leur expliquer, etc. etc.
Et reconnaître leur succession apostolique.
Bah, le vrai œcuménisme, vous en êtes le... Oui, il est personnifié en vous. C'est celui qui, où on invite celui qui est à l'extérieur de venir à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Mais, on va, mais le faux œcuménisme, qui hélas est celui du Concile Vatican II, c'est de flouer les frontières. On sait donc, oui, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas catholique, mais vous avez quand même une certaine participation, une comment dit-on ça, une certaine communion. Donc vous avez un peu de catholicisme, vous êtes un demi-catholique, un tiers de catholique. Le luthérien, ça devait être combien, 20% peut-être. Le calviniste, 10%. L'orthodoxe, 50%. Mais c'est absurde. On est catholique.
80.
Mais on est en communion, on n'est pas en communion. C'est totalement ou pas totalement.
Par contre,
et de la même manière, le flouage de l'Lumen Gentium sur l'Église du Christ et l'Église catholique, on ne sait plus trop.
C'est subsiste dans.
Quelle liturgie va être utilisée par cet évêque copte? Ça doit être une liturgie très ancienne.
Ah, certainement, oui, bien sûr, bien sûr.
C'est cocasse.
Ah, pour le coup,
on
ce
vous
sera.
Va venir.
On vous va venir, oui.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas célébrer la messe Saint-Bissin sur le maître-autel de Saint-Jean-Latran.
Et moderne.
Et parce qu'elle est du 8e siècle. Et.
C'est vrai.
C'est blessant.
C'est aussi blessant pour toi, oui.
Voilà, il y a quand même une chose qui est. Il y a quand même un préalable. En ce qui concerne la Fédération Italienne Mondiale, moi j'ai vécu cette période-là, j'étais très jeune à l'époque, où la Fédération, qui est une communion d'Église, hein, comme l'Église anglicane, a déclaré d'une manière unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'exigeait pas l'inverse, que les luthériens, à partir de cette date, enfin, reconnaissaient le ministère catholique. Autrement dit, qu'un prêtre était un prêtre, l'évêque un évêque, et avec toute la hiérarchie. Bon, donc ça voulait dire qu'il reconnaissait déjà la primauté d'honneur de l'évêque de Rome. Voilà. Et donc moi, j'ai été élevé là-dedans, et donc ce qui a posé tout de suite la question, quand des prêtres devenaient pasteurs, de l'ordination par ordination. Ben, le problème, c'est que bon, les autorités luthériennes ne voulaient pas ordonner. Vous êtes déjà ordonné, on ne va pas vous ordonner. Bon, puisqu'on reconnaît. Mais c'était l'impétrant qui demandait, parce qu'il disait, les fidèles ne me reconnaîtront pas comme un vrai pasteur. Voyez-vous. Je dis ça, parce que moi, je fais partie de ceux qui s'y opposaient. Bon, après, je n'ai pas eu ce cas. Sinon, je m'y serais refusé. Je n'aurais pas réordonné un prêtre catholique qui voulait être... Non, pour moi, il était... Il pouvait... Non. Il faut être conséquent, vous comprenez, avec... Bon. Et si on ne reconnaît pas, par exemple, je reviens au copte, si on ne reconnaît pas la plénitude du ministère catholique et sa vérité, tout en disant, ben voilà, moi, je ne vais pas célébrer comme ça, bon, parce qu'on a une autre conception. Bon. Mais ce sont des vrais prêtres, c'est la vraie évêque, ce sont une tradition. C'est le minimum requis.
Mais il ne le met pas en cause, ça.
Non, ça, personne
ne le met pas en cause. Personne ne remet ça en cause.
En revanche, eux, souvent, remettent en cause notre société.
Au point que les plus durs des orthodoxes, rebaptise
oui,
ou reconfirme.
La preuve en est que.
Et là, c'est. Alors là, c'est vraiment.
Comment s'appelle-t-il qui a été rebaptisé dans la cathédrale Poutine.
Depardieu.
Depardieu, oui.
Grand-père de l'Église, s'il en est.
Oui, non, enfin, c'est...
On l'a rebaptisé.
On l'a rebaptisé.
Je ne savais pas.
Oui.
Il était venu au club des hommes noirs.
Oui, il faut dire qu'il était passé aussi par le judaïsme. Alors, je ne sais pas ce qu'on lui a fait.
Mais est-ce qu'il n'a pas été reconfirmé ou rebaptisé?
Oui, écoutez, bon, les sens.
Mais oui, non, mais c'est...
Non, mais si on va chercher des cas de ce type, alors pour aller dans le sens de...
Alors, que faut-il faire pour sortir de cette confusion
Sortir de l'œcuménisme. Il n'y a pas d'autre moyen.
On sent une revendication, là, presque une pancarte.
Oui, je serais prêt à faire des chapelets dans les églises de Paris pour clarifier les choses. Non, c'est vrai. Mais ça, on ne peut qu'y venir. Si on ne peut pas rester dans le flou. Il ne peut pas y avoir d'annonce de l'évangile dans le flou. Or là, il y a un flou sur un point très important.
Il y a un flou qui empêche l'annonce de l'évangile, du coup.
Qui empêche l'annonce de l'évangile et qui empêche les conversions. Ou qui empêche beaucoup de conversions. Parce que malgré tout, la grâce sainte ruisselle à travers...
Parce qu'on se moque de l'uniatisme.
Alors expliquer l'uniatisme.
L'uniatisme, c'est le fait de pousser des orthodoxes à devenir catholiques en conservant leur coutume.
Et ce alors qu'on a fait pour les anglicans.
Les orthodoxes vont dire, si vous devenez catholique, ben devenez latin. Mais ne conservez pas la liturgie orientale. Mais l'uniatisme, c'est tout simplement de reconnaître la primauté de Pierre. C'est Saint Josaphat. Vous savez que le corps de Saint Josaphat est dans la basilique Saint-Pierre et que certains orthodoxes sont horrifiés que cet individu soit là, en disant c'est un très mauvais exemple.
Allez, le mot de la fin.
Sur ces questions d'œcuménisme, il faut que nos téléspectateurs y relisent le document fondamental sur l'œcuménisme, c'est l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos, en 1928. Voilà. Il faut revenir, il y a la base, etc. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, quand nous disons dans le credo « Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique », c'est que l'Église, elle est déjà une. L'Église catholique, elle est une, et ça a des conséquences autour de l'œcuménisme qui doit être conçu, nous l'évoquions tout à l'heure, comme le retour des dissidents à l'Église romaine. Voilà. Et l'Église, elle n'est pas dispersée, l'Église, elle est une.
On doit tout faire pour qu'ils reviennent, donc en effet aplanir.
Il faut être gentil, tout ce
plus que cela, même éventuellement faire
mais des... Mais pour reprendre l'exemple
choses rituelles, comme
qui me tient à cœur par rapport à la blessure contre la charité, on est tellement habitué au divorce que nous-mêmes, on s'en moque. Mais les orthodoxes ont adopté le divorce, et c'est ne serait-ce que aussi pour ça, et pour la charité 77 fois 7 fois, le pardon dans le mariage, j'appelle les orthodoxes à devenir catholiques tout en gardant leur liturgie, leurs coutumes.
Mais hélas, Solzhenitsyn était un divorceur marié.
Mais voilà.
Allez-y,
même pas. Il y a deux textes que l'on met en parallèle qui sont vraiment très intéressants. Dans Mortalium Animos, on lit « Que les fils dissidents reviennent au siège apostolique », c'est la définition de l'œcuménisme. Et dans Unitatis Redintegratio, ça devient l'appel qui est fait à toutes les églises, la conversion de toutes les églises au Christ total. Et ben, on va dire pudiquement que ce n'est pas exactement la même totalité.
Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Maugendre. Pour ces lectures. Merci à tous de vos éclairages sur ces questions. Finalement, on a parlé de l'œcuménisme, puisque nous étions partis de cette cérémonie anglicane le 18 avril dernier en la basilique Saint-Jean du Latran. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir, de nouveaux invités et évidemment un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.